franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les chrétiens de Syrie.
L'idée que les chrétiens puissent quitter le pays, c'est impensable. Celui qui attaque les chrétiens attaque les alaouites, les sunnites, les druzes. Si les sunnites sont attaqués, nous les défendrons. Et si on s'attaque aux chrétiens, tout le monde les défendra.
Syrie, c'est au Proche-Orient le pays peut-être le plus balkanisé. Sunnites, chiites, alaouites, ismaéliens. Les musulmans sont tout sauf un. Les populations intermédiaires sont d'autant plus nécessaires. Parmi ces populations intermédiaires, les juifs ont déjà disparu. Restent les druzes et les chrétiens. Ils sont encore la preuve d'une pluralité possible. Ils occupent une position symbolique qui excède de beaucoup leur nombre. Encore faudrait-il que celui-ci ne s'effondre pas. Or, les chrétiens sont démographiquement déclinants et politiquement dépendants. Le régime, depuis 1970, ne leur laisse pas d'autre choix que de passer un compromis avec la minorité alaouite dont il est issu. Compromis bancal, où les chrétiens tiennent un rôle subalterne et qui ne garantit aucunement l'avenir. L'avenir. Les chrétiens sont trop peu et trop divisés pour le préparer. Leur faiblesse est aggravée en effet par l'émiettement. Une douzaine d'églises, les unes séparées de Rome, les autres liées à Rome. Ces communautés closes, clouées dans leur immobilité, sont-elles condamnées, comme celle d'Irak récemment, à la mobilité forcée au départ? C'est d'ailleurs ce qui fascine chez les chrétiens de Syrie. Ils ont été les premiers, ils risquent d'être les derniers. Frédéric Pichon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre invité, vous avez beaucoup parcouru cette région, et peut-être quand vous étiez jeune professeur en poste à Beyrouth, étiez-vous déjà avec dans la tête cette musique-là, fasciné par le fait qu'ils sont les témoins des commencements et qu'ils risquent de l'être de la fin.
Oui, effectivement, ça c'est pour retracer un petit peu mon expérience. On a l'impression, lorsqu'on se voyage au Proche-Orient, effectivement, de retrouver les origines. Alors, c'est un petit peu un rêve d'orientaliste aussi. On est parfois un peu déçu parce que, entre-temps, au bout de 2000 ans, le temps a passé. Ces chrétiens eux-mêmes ont su adapter, ont évolué. Leur culture a évolué en réalité. Elle s'est nourrie aussi des idées occidentales, notamment, surtout pour les communautés catholiques. Mais voilà, on a cette impression très orientaliste, très daté du 19e, d'être là aux sources du christianisme.
Oui, parce qu'avec du neuf, les chrétiens de Syrie font souvent du vieux. C'est d'ailleurs le titre de la thèse que vous avez publiée il y a peu aux presses de l'Institut français du Proche-Orient de Damas, qui est consacré à un village, Maaloula, qu'il faut que vous situiez géographiquement. C'est au nord de la capitale?
C'était au nord de Damas, à une soixantaine de kilomètres, dans l'anti-Liban, c'est-à-dire le massif montagneux qui fait la frontière avec le Liban.
Et des orientalistes, là, se sont rendus comme en procession depuis le 19e siècle.
Voilà.
Mais sachez-le, des journalistes aussi sont venus. Ainsi, pour France Inter, en 1977...
Christian Billman nous a fait parvenir cette image sonore de ce village syrien, un village où l'on parle araméen. L'araméen, c'est la langue du Christ, Maaloula.
L'araméen, la langue du Christ, conservée presque intacte au creux des montagnes de Syrie, dans un petit village chrétien, Maaloula. Pour les habitants de Maaloula, l'araméen est le dialecte quotidien. Ils l'emploient au travail, pour acheter leur pain, bref, entre eux, de préférence à l'arabe, la langue officielle. Accrochés à leurs falaises, dans leurs maisons qui s'étagent, l'une s'appuyant sur l'autre, comme les rayons d'une ruche, longtemps isolés dans ce site sauvage, au-dessus de la plaine en majorité musulmane, Ils ont pu préserver leur langue de génération en génération sans pratiquement qu'elle s'altère. Aujourd'hui, bien sûr, avec les enfants qui vont à l'école et les grands qui, parfois, vont étudier à Damas, la tradition perd du terrain. Une tradition qui avait fait de Mahaloula l'un des bastions du christianisme au Proche-Orient.
Alors, continuez de tendre l'oreille. Je ne suis pas sûr qu'on ait entendu un araméen pur. Et maintenant, on devrait entendre la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, une prière en araméen. Voici ce qui en serait la transcription la plus proche.
وغفر ليح احتيوثح اخ من غفريتي مخت عمينح ولتخلنح بتغرب يوثا بس نجنح مشر الشيدة.
Alors, recueilli par un personnage invraisemblable dont vous faites le portrait dans votre livre, Jules Ferret, en 1863, le Notre Père, en araméen.
Oui, alors, en réalité, ce Notre Père est un peu une reconstruction, puisque lorsque justement cet orientaliste recueille cette version, il a bien du mal à le faire auprès des populations, puisqu'elles lui disent « mais non, on ne récite jamais le Notre Père en araméen ». Bon, mais ça fait partie, effectivement, ce qui est important, c'est évidemment l'araméen dans cette histoire, et que ce soit maintenu dans ce village, mais en réalité aussi dans deux autres petits villages à côté, qui sont eux musulmans, mais qui continuent à pratiquer cette langue, ce qui apparaît comme étant la langue qui était autrefois parlée dans tout le Proche-Orient occidental et donc en Palestine.
Alors l'araméen, c'est une strate très ancienne. Mais ensuite, quand Paul se convertit sur le chemin de Damas, en Syrie, et qu'il décide de prêcher, il va prêcher en quelle langue ?
Très probablement en grec, en réalité, puisqu'il s'adresse aux juifs des synagogues des grandes villes. Donc c'est la koiné, hein, ce grec populaire, ce grec répandu. Et l'araméen, en réalité, en tout cas, cette version de l'araméen n'atteindra jamais un stade littéraire.
Les premières communautés chrétiennes de Syrie, enfin on va mettre Syrie entre guillemets, on n'est pas dans les frontières actuelles, évidemment, s'expriment, par exemple, en grec, et vont traverser l'époque hellénistique, puis l'époque byzantine, avec beaucoup d'implantations du côté d'Alep et de Hama. Il y a par exemple les fameuses villes mortes, avec la colonne de Siméon.
Voilà, Siméon le stylite, grand témoignage du monachisme syrien des premiers temps. Bon, le monachisme est né dans les déserts d'Égypte, avec saint Antoine, le père des moines. Mais on a effectivement au nord de la Syrie, encore dans ce désert absolument, dans ce décor absolument extraordinaire des villes mortes, le témoignage de ces premiers ermites. Alors Siméon, lui, avait choisi de résider en haut d'une colonne, mais on avait aussi des ermites dendrites qui s'enchaînaient à des arbres, des ermites brouteurs également, qui creusaient des fosses et qui se nourrissaient de l'herbe qui y poussait.
37 ans en haut d'une colonne, et puis la foule qui se réunit au pied de la colonne, et il faut établir une basilique de milliers de mètres carrés dont on a encore la trace. Arrivent ensuite les cavaliers de l'islam, et les chrétiens demeurent. Et même quand l'islam arrive à constituer, et ça a été assez rare dans son histoire, un empire, celui des Omeyyades, immensément étendu, les chrétiens y jouent un rôle important.
Exactement, et notamment la figure de Jean Damascène, qui était issu de la caste au service des Byzantins, donc hellénisé, mais aussi un arabe, et qui va se mettre au service des califes musulmans omeyyades avant de se retirer plus tard au monastère Saint-Saba, plus au sud, et de finir. Il est notamment l'auteur d'une des premières réfutations de l'islam, mais il a été au service des califes omeyyades.
Les omeyyades offraient des postes d'administration et de médecins aux chrétiens. Leurs successeurs n'ont pas toujours été aussi bienveillants. Les difficultés des chrétiens ne tiennent pas seulement aux puissances musulmanes en Syrie, elles vont tenir par exemple aux croisades. Les chrétiens de Syrie n'avaient rien demandé et ils vont devoir répondre de l'entreprise des croisés.
Bien entendu, et c'est depuis les croisades a été le problème de ces communautés. Je ne veux pas utiliser le terme de minorité, on en reparlera un petit peu plus tard. Elles se veulent loyales au pouvoir, elles sont sous domination en réalité, hein, depuis 15 siècles, elles sont en permanence sous domination, et elles se veulent loyales au pouvoir, mais lorsqu'on intervient de l'extérieur en leur faveur, et bien souvent, elles en payent les conséquences.
Parce qu'elles paraissent être peuplées d'agents de l'extérieur. Ça va être particulièrement net à l'époque que nous on dit moderne, disons essentiellement au XVIIe siècle, quand Rome, avec la collaboration par exemple de la France, qui a pas mal d'établissements dans la région, veut réinsérer dans son orbite les communautés chrétiennes qui étaient soit des églises autonomes, soit des églises qui appartenaient à la galaxie orthodoxe.
Oui, et c'est, bon, toutes les puissances, à vrai dire, font ça et s'appuient, à l'exception des Anglais, s'appuient sur les communautés chrétiennes de la région, au Liban, en Syrie. Les Français vont choisir au Liban, en particulier les Maronites, mais l'Empire russe va s'appuyer sur les Grecs orthodoxes. Et évidemment, ce genre d'instrumentalisation, lorsque vient l'heure des comptes, parfois s'avère hasardeux.
Alors, la papauté réussit à créer une église symétrique de pratiquement la plupart des églises anciennes, églises unies à Rome. Et c'est ça qui explique l'émiettement.
Voilà, mais c'est un phénomène assez tardif. C'est à partir du début du XVIIIe siècle que vont effectivement se constituer des sortes de doubles de chacune des églises autochtones, indigènes, anciennes, qu'on va appeler de manière péjorative uniates. Hein, il réfute ce terme, mais qui effectivement vont instaurer, à l'exception de l'église maronite, hein, une double allégeance, une branche orthodoxe et une branche qui est rattachée à Rome.
Émiettement dit affaiblissement, parce qu'il n'y a pas ni la surface géographique, ni le vivier en hommes qui permettent à chacune de ces communautés d'avoir des élites dynamiques.
D'autant que ce sont des communautés qui sont pour la plupart quand même très urbaines, situées en milieu urbain, et par conséquent ne bénéficient pas d'assises territoriales comme d'autres communautés pourraient le faire, les Druzes par exemple, ou les Kurdes au nord de la Syrie.
Mais les chrétiens entre eux se regardent souvent en chien de faïence.
Oui, alors on a un exemple plus au sud qui est celui de la gestion du Saint-Sépulcre, par exemple. Il faut bien dire qu'on a la même chose, même bon, y compris dans le village sur lequel j'ai travaillé. Il y a deux grandes communautés chrétiennes, les Melkites, les Grecs catholiques et les Grecs orthodoxes. Et souvent dans l'histoire, ils se sont affrontés pour des raisons pas très importantes en général.
C'est bien, Frédéric Pichon, de parler vrai, parce qu'on va entendre ici la langue de Buis, qu'aiment bien utiliser les hiérarques de Syrie. C'était il y a 10 ans, à l'occasion du voyage de Jean-Paul II.
Jean-Paul II participe en ce moment même à une rencontre œcuménique avec les représentants des 6 églises catholiques et des 4 églises orthodoxes de Syrie. Une diversité qui est, pour Monseigneur Odo, le patriarche chaldéen, une richesse.
Non seulement faire connaître qu'il y a des chrétiens dans ce pays, mais des communautés très variées qui représentent des cultures très anciennes, comme la syriaque, la byzantine, la chaldienne, la nôtre, qui vient surtout de Mésopotamie, les Arméniens, les Maronites, avec une coloration syriaque particulière, même les Latins. Et vous voyez, ça fait une richesse extraordinaire pour le monde aujourd'hui qui cherche à coexister à travers des cultures différentes, à s'accepter différents, alors que l'intolérance est en train de gagner du terrain un peu partout.
C'est important, Frédéric Pichon, qu'on fasse entendre, même bref, un écho des rites, parce que la vraie richesse de ces communautés, c'est le rassemblement qu'elles provoquent autour des rites.
Oui, ce sont des rites très anciens qui, comme vous avez pu le constater, sont maintenant chantés et célébrés en arabe, qui comportent encore quelques parties de grec, mais qui jusqu'au XIVe, XVe siècle était encore exclusivement en grec, hein, qui est quand même la langue, il faut bien le rappeler, il faut rappeler que les évangiles ont été écrits en grec, et qui a été la langue de cette partie de l'Église d'Orient.
Mais enfin, il faut bien raconter aussi, insister sur le fait que les chrétiens de Syrie sont des Arabes.
Exactement.
Ou arabisés, il y a fort longtemps.
Arabisés, hein. et même, ils ont donné, d'une certaine manière, leur lettre de noblesse à la langue arabe. Le premier volume imprimé en arabe, ça a été une Bible, et elle a été par des chrétiens de Syrie.
Alors, ces rites sont riches, lents, le temps de préparation du prêtre, le temps de préparation des offrandes, foisonnant.
C'est extrêmement pédagogique. C'est en réalité c'est une liturgie qui est fondée énormément sur les gestes, sur la gestuelle, sur la médiation permanente. Avec cette liturgie héritée, donc composée, dit-on, par Saint Jean Chrysostome, Bouche d'Or, et que toutes ces églises ont en commun, avec des variantes. Les églises syriaques, par exemple, ont intégré encore et intègrent toujours des rites qui sembleraient-ils dérivent d'usage juif des premiers temps, tandis que les églises orthodoxes, grecques orthodoxes ou grecques catholiques, ont une liturgie qui remonte certes au premier temps, qui a évolué, mais qui comporte un certain nombre de choses qui peuvent être d'ailleurs étonnantes pour un occidental, hein, puisqu'on n'a pas du tout, comme les liturgies latines, on n'a pas d'élévation, par exemple, hein, qui sont des rajouts postérieurs dans la liturgie latine occidentale, mais donc effectivement, alors l'encens, qui est l'usage dont l'usage est quasiment immodéré.
Mais grande différence avec la liturgie latine, c'est une pédagogie débonnaire. Enfin, c'est-à-dire qu'on est comme quand on écoute la marche de l'histoire, on n'est pas obligé de suivre. On peut aller et venir.
Oui, ça c'est. Ça devait être un peu sans doute le cas. Si on allait dans des églises en Sicile au XIXe siècle ou même au début du XXe siècle, bon, les hommes sortent, rentrent, on discute, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Et ce quelque chose, il est très très bien matérialisé, notamment par tout ce qui se passe derrière l'iconostase. Hein. L'iconostase est commun à toutes ces liturgies. Hein, l'iconostase,
le mur des icônes.
Voilà, le mur des icônes, derrière lequel se tient le lieu sacré où s'opère la transsubstantation. Et on a aussi un rite qui est tout à fait classique. C'est qu'on communie sous les deux espèces. Hein. C'est-à-dire que le pain est trempé dans du vin, un pain qui est très aromatisé. Donc on n'a pas du tout, effectivement, ce côté peut-être un peu plus éthéré de liturgie latine.
Alors, grande richesse de ces rites célébrés souvent par des prêtres nombreux, avec beaucoup d'or et, vous l'avez dit, d'encens. Revenons maintenant à la faiblesse réelle des chrétiens de Syrie. Quelle est leur place dans le discours national tel qu'il est développé par le régime Assad depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années?
Alors ça constitue plutôt une force pour eux, dans la mesure où, à partir des années 70, s'est mis en place un régime inspiré du panarabisme, ou en tout cas du nationalisme arabe, qui a bien vu dès les débuts que le principal danger était de confondre la nation arabe avec l'oumma musulmane, et donc qui a tout fait pour, dans son discours officiel sur lui-même, sur l'histoire de la Syrie, pour minorer la période islamique de la Syrie au profit de la longue histoire. Et effectivement, en Syrie, l'archéologie ne manque pas de relever cette longue histoire. On peut repartir du site d'Ougarit, et même le patrimoine byzantin est totalement intégré dans l'histoire nationale syrienne, et le christianisme, évidemment, en fait partie. Il est même extrêmement mis en valeur. Damas, la photographie qui illustre l'émission de ce jour, elle a été prise rue Hanani.
Sur notre site.
Rue Hanani. La rue Hanani, c'est l'endroit justement où Paul serait allé se faire recouvrer la vue. Et on a une maison, on a un musée, on a toutes choses qui sont mises en avant par le régime syrien.
Oui, mais quand on regarde votre livre sur Maaloula, presse de l'Institut français du Proche-Orient, on voit sans arrêt le village représenté sous l'égide du président Assad, qui est là, l'enveloppant de ses bras protecteurs. Les Alaouites, la minorité très particulière de l'islam sur laquelle s'appuie la famille, est convié à une alliance objective avec les chrétiens. Dans cette alliance objective, les chrétiens sont dans un rôle subalterne tout de même. Leurs écoles ont été pour la plupart nationalisées, toutes leurs activités sont sous contrôle policier. La bourgeoisie chrétienne, quand elle était riche, a pris la poudre des escampettes.
Oui, alors ça, c'est peut-être aussi un discours qu'il faut, de vérité qu'il faut avoir. Les chrétiens n'ont pas été totalement gagnants dans cette histoire. Ils ont pu préserver une partie de leurs activités. Mais par exemple, ce que vous venez de souligner, la nationalisation du système scolaire en 1967 et le fait qu'il n'y ait pas d'école privée confessionnelle en Syrie a, à mon avis, beaucoup nuit à la profondeur culturelle de ces communautés qui sont un petit peu obligées, pour se renouveler, de compter en permanence sur l'extérieur, sur le Liban, sur l'Occident. Et ça a été un mauvais coup, effectivement.
On leur laisse par contre les biens religieux, les églises et les locaux avoisinants, avec d'ailleurs le souci de les occuper. Oui. Avec les questions matérielles.
Oui, alors, mais ça, c'est un héritage ottoman. Les chefs des églises, les évêques, sont aussi des hommes d'affaires, sont des gestionnaires de communautés. Mais c'est vrai qu'on pourrait reconnaître au régime quelque chose d'assez étonnant. Ce qu'on appelle l'administration des waqf, c'est-à-dire des biens patrimoniaux religieux, eh bien, l'égalité est totale entre les biens musulmans et les biens chrétiens. Les couvents, les églises en Syrie bénéficient de la gratuité de l'électricité et de l'eau, par exemple, au même titre que les mosquées.
Dans votre premier livre sur les chrétiens d'Orient, vous racontez votre entrevue avec un archevêque d'une petite église qui passe son temps à compter des liasses de dollars en vous recevant. Quelle est sa spécialité?
Oui, alors ça, c'est peut-être un des aspects aussi qu'il ne faut pas oublier. L'histoire les a cantonnés aussi, c'est à ce clergé supérieur, les a cantonnés dans un rôle d'administrateur de communauté et avec effectivement de l'argent qui circule. Avec,
celui-là, on tira son nom, il s'occupe de divorce?
Oui, alors ça, c'est le cas dans certaines églises orthodoxes, puisque le divorce est autorisé dans certaines églises orthodoxes.
Alors, tenez, à propos de mariage, de divorce, voici le témoignage d'une chrétienne de Syrie immigrée en France et qui, il y a 20 ans, tenait à rester anonyme au micro d'Antoine Spire.
Moi, chrétienne passant à l'islam, ça n'a aucun problème, sauf de faire du mal à ma famille. L'inverse est quasi impossible, ou ça arrive, mais alors ça relève de la conspiration. J'ai assisté moi-même à la conversion et au baptême d'une de mes amies musulmanes. Nous en étions oppressés. Nous sommes sortis de là comme si nous avions commis un meurtre. En fait, l'islam attend des chrétiens qu'ils se convertissent. Il les tolère en tant que chrétiens vivant leur christianisme, mais n'admet pas un prosélytisme dans l'autre sens. Donc il n'est pas question que des chrétiens puissent convertir des musulmans. Et une musulmane ne peut pas épouser un chrétien, à moins qu'ils deviennent musulmans. C'est-à-dire, il est essentiel que les enfants soient musulmans. L'idée de base est là.
Alors Marie, expliquez-moi, qu'en est-il des droits dont vous disposez éventuellement, par exemple, d'adhérer à une foi qui n'est plus une foi chrétienne, mais qui est ni non plus une foi musulmane, mais qui serait par exemple tout simplement d'être laïque ou athée. C'est impossible en Syrie?
En Syrie, c'est impossible. C'est impossible en Orient. Il y a eu toute une vague de jeunes de mon époque qui, pour se marier et faire un mariage laïque, allaient en Turquie. C'était le choix qu'il faisait. Alors, il faisait après enregistrer le mariage comme il était enregistré dans un pays. Il pouvait le faire enregistrer en Syrie, mais en Syrie, c'est impossible. On ne peut se marier que dans un mariage communautaire.
Enfin bref, chacun est enclos dans sa communauté.
Oui, c'est assez courant d'ailleurs dans la région. C'est le cas au Liban, c'était le cas aussi en Irak. La question des conversions est quelque chose de très compliqué. Évidemment, pour des Occidentaux, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais à partir du moment où vous voulez quitter votre communauté d'origine, le régime syrien, notamment, voit cela comme surtout un risque de fitna, c'est-à-dire de dissension confessionnelle. On a vu en Égypte récemment des conflits entre coptes et musulmans à propos de pseudo-conversions ou de conversions qui avaient eu lieu ou qui n'avait pas eu lieu. Assez rapidement, avec notamment tout ce qui est le droit du mariage, hein, c'est toute la communauté qui est concernée. Et par conséquent, on peut voir ça comme une mesure de sagesse de la part du régime. En réalité, ça a des implications extrêmement fortes. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'en connais, à vrai dire, j'en connais des gens d'origine chrétienne, mais qui se disent agnostiques ou athées, qui sont même les plus anticléricaux qui soient. C'est tout toute la nuance qu'il faut faire entre qu'est-ce qu'être chrétien d'Orient. Est-ce que c'est uniquement parce qu'on est né dans une communauté chrétienne qu'on a un prénom ou un nom de famille qui est chrétien, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur? En Orient, on ne fait pas cette différence.
Retour à Maoula, votre village fétiche, à vous et à tant d'orientalistes, dans la montagne de l'Anti-Liban, où il y a maintenant deux mosquées, une un peu disproportionnée, où on entend beaucoup le chant des muezzines. C'est la nouvelle donne de l'islamisme qui continue de gagner du terrain. Et quand on chante encore en araméen, on ne connaît pas de chanson araméenne qui a été conservée, c'est en fait de l'arabe traduit. Hein.
Oui, exactement.
Tendez toujours l'oreille, vous devenez expert, chers auditeurs. وحل يا رحم وتسحورا امر اللي تاخو تشعني فحذو تشخد بشاب خورا امر الله يا بربورا شو حل يا رحم وتسحورا امر اللي تاخو تشعني فحذو تشخد بشاب خورا امر اللي تاخو تشعني فحذو تشخد بشاب خورا occupés au maintien de leur substrat matériel, ayant peu de dispositions ou de loisirs pour gagner en substance spirituelle, les autorités, les hiérarques des églises chrétiennes ont fait, faute d'autres choix, ont pris la décision de soutenir le régime de Bachar. Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Fichon?
Oui, tout à fait.
Ils sont pris
oui,
dans un étau.
On peut pas réduire la prise de parole de certains hiérarques, effectivement, à toute la communauté chrétienne. Mais si on interroge les gens, ils sont plutôt loyalistes. Ou en tout cas, ils disent il faut certes des réformes, mais ça n'est pas le moment. Là, on est dans une situation de guerre civile.
Alors, beaucoup de chrétiens ont quitté par peur depuis longtemps les campagnes pour rejoindre Damas. Damas, c'est peut-être la première étape pour l'exil plus loin. Il y a encore des chrétiens à Homs, dont on parle à juste raison, beaucoup. Un fait troublant a défrayé la chronique le mois dernier. La prieure d'un couvent voisin s'était établie comme intermédiaire avec la presse. Et quel intermédiaire ?
Mère Agnès guide les reporters, facilite les passages lors des contrôles militaires.
On nous emmène sous escorte militaire dans une famille chrétienne.
Des gens sont venus, ils nous ont demandé pourquoi vous ne participez pas aux manifestations contre le président. Prenez de l'argent tant que vous voulez et venez. Et nous, on leur a dit non, on n'est pas contre le président, on l'aime et on aime notre pays.
Deuxième journée de tournage, l'équipe a rendez-vous devant cette église. Où sont rassemblés des partisans du régime. L'équipe retrouve ici celle qui leur a obtenu le visa, Mère Agnès.
Oui, ces journalistes sont avec moi.
Dans l'enceinte de l'église, l'assemblée se prépare à rendre hommage à un enfant. Il aurait été victime des insurgés deux mois plus tôt. Après le prêtre orthodoxe, c'est l'imam alaouite. En guise d'hommage, il adresse un message politique à l'Assemblée et cite un nom. Nicolas Sarkozy, qui a semé quelques jours plus tôt Bachar al-Assad de quitter le pouvoir.
Mère Agnès, j'ai juste une petite question. L'église s'est transformée en tribune politique.
Pas du tout. Le moufti, il a parlé de réalité spirituelle. Ce n'est pas politique.
Mère Agnès tenait beaucoup à ce que Gilles Jacquier aille jusqu'à Homs. Elle a annoncé sa mort un peu avant que celle-ci ne survienne. Un mystère qu'on ne va pas tenter d'éclaircir. Alain Juppé, réfléchissez bien, chrétien de Syrie, à l'avenir, car le régime que vous soutenez n'a pas d'avenir.
Oui, j'ai lu cette déclaration du ministre des Affaires étrangères. Elle m'a un peu surpris d'utiliser même le terme de vous coller au régime. En ont-ils vraiment le choix? Et est-ce que c'est pas. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu cynique de la part d'Alain Juppé, car à vrai dire, on a l'impression d'un franc soutien de la part de la France vis-à-vis d'une opposition qui, quand même, reste encore très largement au contour toujours assez indécis, même si Alain Juppé a dit que ce serait bien que l'opposition prenne des chrétiens et des alaouites aussi. Mais alors, d'un côté, on demande aux chrétiens de ne pas s'engager, et de l'autre, on leur demande de s'engager du côté de l'opposition. Je pense qu'on risque d'être déçus aussi.
Merci à vous, Frédéric Pichon. Demain, nous parlons de la radio, de son histoire. Comme la tête au carré, nos auditeurs peuvent nous rejoindre. Nous serons en direct et en public au CNAM, métro Arts et Métiers, à Paris. Vous pouvez vous inscrire, expo radio, @radiofrance.com. Le mot-clé, c'est le mot histoire. Bien évidemment, l'émission a été préparée par Camille Poux-Jalaguier, avec Jacques Sigal à la réalisation et à la technique, Sandrine Laurent et Frédéric Boeuf.